Radio Campus.
Radio Campus. Radio Campus 88.3. 17h, 18h, le mag culturel. Le mag culturel,
Radio Campus 88.3 FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine et vous êtes bien sur Radio Campus Orléans pour le magazine culturel. Pour ce faire, nos invités sont Éléonore, qui nous parlera de sa sortie de résidence, puis de son travail de recherche autour des ondes, et avec Philippe, pardon, pour l'actualité de la Labo Média et sa présence au Festival de Bourges. Nous sommes trois aujourd'hui, il y a Erwan et Anna.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Et on finira avec l'agenda des sorties culturelles.
Alors, tout d'abord, bonjour, comment allez-vous, Philippe et Éléonore ?
Bonjour.
Moi, ça va bien.
Ça va bien aussi.
Donc, vous venez nous parler des actualités de la Labo Média. Alors, premièrement, dites-nous alors comment se déroule une résidence à la Labo Média ?
Moi, je peux peut-être répondre parce que je faisais partie du comité qui a épluché les candidatures. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit un appel à candidature. Donc, c'était pour une résidence de recherche. Donc, l'idée, c'était que l'artiste qu'on a sélectionné allait chercher, mais pas forcément produire quelque chose, pas forcément une pièce à la fin d'une exposition. C'était vraiment de la recherche. Mm-hmm. Donc, on a rédigé notre appel en expliquant les conditions d'accueil, tout ça. Et ensuite, on l'a diffusé sur les réseaux nationaux et même internationaux. Et on a eu beaucoup de réponses. Je crois que c'était 160 personnes. On s'attendait à éplucher 50 dossiers, on en a éplugé 160. Donc c'était super intéressant. Plus de boulot que prévu, mais très intéressant. Et je ne sais pas, Éléonore, toi, tu l'avais vu comment, l'appel ?
Je pense, oui, sur les sites qui recensent un peu tous les appels à projets. Ou quand on est artiste, il y a quelques sites qu'on épluche, genre le CNAP, le ministère de la Culture aussi, je pense, qui propose, et j'avais vu passer par là. Aussi, je vous suivais. Je suivais la Labo Média, et du coup, sur les réseaux, j'avais vu que vous proposiez un appel à projet.
D'accord. Et donc, Éléonore Sens, tu es donc une artiste designer qui travaille en région parisienne, entre Bagnolet et Saint-Denis, et tu t'intéresses plus particulièrement au domaine du numérique. Oui. Tu étais donc en résidence artistique à la Labo Média et as participé à une restitution publique le 18 avril dernier de ton projet de recherche intitulé « Cyber-rituel et sorcellerie computationnelle », si je ne me trompe pas.
Oui.
Et donc, d'abord, première question, qu'est-ce qui t'a inspiré ce sujet donc sur les ondes électromagnétiques ?
Du coup, de base, je travaille pas mal. Enfin, j'ai un cursus de designer. Mmh. Et je me suis pas mal orientée vers la vulgarisation et assez vite, je m'intéressais au numérique parce que je trouve que c'est particulièrement intangible et assez crypté et c'est des choses qu'on utilise tous les jours. Du coup, dans ma démarche, je cherche régulièrement à essayer d'expliquer des petites notions en rapport au numérique sans être une spécialiste dans ce domaine-là.
Oui.
Et là, c'était des articles de presse qui annonçaient que Google allait devoir annoncer que les requins attaquaient Internet. Et en fait, c'est Google qui devait protéger ses câbles sous-marins parce que les requins les attaquaient et les mordaient.
D'accord.
Et après une recherche, en fait, ces câbles émettent des ondes électromagnétiques qui attirent ces requins et ça perturbe énormément la biodiversité, notamment les oiseaux migrateurs, par exemple, lors de leur migration, ils sont désorientés à cause de notre surémission d'ondes électromagnétiques par nos outils. Donc ça partait de là.
D'accord. Et peut-être pour nos auditeuristes qui n'ont pas forcément un profil scientifique, est-ce que l'un de vous deux peut rappeler qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ?
Tu veux faire au jeu ?
Vas-y, Honor, je préfère, je crois que tu sais mieux que moi.
Ok, moi non plus, j'étais pas trop une spécialiste, du coup j'ai pas mal épluché des petits trucs et je pense que j'ai pas la réponse la plus correcte, mais du coup les ondes électromagnétiques c'est un mélange des ondes magnétiques et des ondes électriques qui sont combinées toutes les deux. Et il y a énormément de sources d'ondes électromagnétiques qui peuvent autant être naturelles, par exemple la Terre elle émane un champ électromagnétique assez puissant qui nous protège autant des choses dans l'espace, mais qui permet aussi de, pour nous, à tous nos outils, par exemple les boussoles, c'est grâce au champ magnétique qu'on s'oriente de la Terre. Nous, en tant qu'être vivant, autant que les plantes et les animaux, on crée un champ électromagnétique. Et après, en tant qu'humain, on l'a aussi un peu domestiqué et on l'a compris pour l'utiliser en tant qu'outil. Par exemple, les ondes radio, du coup, ça fait partie du grand spectre des ondes électromagnétiques.
D'accord.
Mais il y a aussi les rayons UV, enfin, même les scanners. Enfin, il y a énormément de choses, c'est un très large spectre.
D'accord. Donc, je lisais, par exemple, que tu avais mené différentes expériences permettant de mettre au jour et de rendre visibles, justement, les effets de ces ondes électromagnétiques. Est-ce que tu peux peut-être nous parler d'une expérience parlante pour nos auditeurs qui témoigne, justement, de l'effet de ces ondes
Je sais pas trop pour les effets. Après, ma démarche a été un peu plus d'essayer de les rendre visibles. Et comme justement, je comprenais pas trop à quoi ça correspondait au début, je me suis intéressée aux ondes magnétiques parce que c'est, par exemple, le champ magnétique de la Terre, il est semblable à un aimant polarisé nord positif et négatif au sud. Et du coup, de pouvoir donner une image à ce champ magnétique, on peut le faire avec des aimants. Et donc, dans mes petites expériences, par exemple, mettre un aimant sur un écran cathodique, ça va déformer et attirer les électrons présents dans l'écran et va créer un graphisme, un peu une forme qui est le même que ce produit par la Terre.
D'accord. Sinon, je lisais que ton projet de recherche était justement protéiforme. Et donc, quelles sont les différentes formes que tu as utilisées?
Alors, au début, c'était plein de petites expérimentations. Donc, par exemple, ces choses avec les aimants. Ensuite, j'ai essayé de me concentrer sur capter les ondes électromagnétiques émises par nos outils numériques. Mm-hmm. Donc, j'ai fait un enchaînement de tentatives de capteurs en regardant principalement des tutos YouTube de personnes qui essayent de faire des capteurs d'ondes électromagnétiques. Du coup, ça a pris différentes formes avec différents composants électroniques et différentes formes d'antennes aussi, parce que la forme de l'antenne va rentrer, enfin, ça a une incidence directe. Selon la forme de l'antenne, elle va capter une certaine valeur d'onde électromagnétique. Et vu que je cherchais à capter celle des téléphones et des bornes Wi-Fi, par exemple, du coup, au début, j'ai plein de petits insectes un peu. Avec plein d'éléments électroniques et des petites antennes, et je me suis baladée dans la rue et dans les bâtiments pour voir à quoi ça ressemblait et qu'est-ce qu'il captait. Après, j'ai fait un petit dépliant fanzine, parce que justement, vu que j'étais aussi en apprentissage et que mon but, c'était de pouvoir communiquer mes recherches, j'ai réalisé un petit dépliant qui reprenait un peu toutes mes recettes et mes recherches que j'avais pu faire pendant la résidence. Et pour finir la résidence, vu que je voulais refaire un rapport plus, reparler de ce rapport au vivant et de notre impact sur le vivant, j'ai proposé une petite installation qui prenait la forme de... Je racontais une petite histoire d'être-machine qui était née des décombres de la Terre et de nos outils numériques. C'était un cyborg entre espèces végétales et éléments électroniques. Ça prenait une petite forme de petit robot avec une antenne de à peu près un mètre de haut, qui en fait avait un mouvement lent et assez tranquille. Et quand on approchait nos téléphones lorsqu'ils étaient actifs, normalement on devait être perturbé, mais en réalité clignotait plus qu'autre chose. Et à côté de ça, il y avait une petite broderie qui représentait un peu l'histoire de la naissance de ces êtres-machines avec la surprésence des ondes électromagnétiques.
D'accord. Donc, si je comprends bien, la dernière forme, c'est un format qui est presque artistique, c'est ça?
Oui, d'accord. Plutôt, oui, une installation.
Et donc, qu'est-ce que ce format plutôt artistique permet de dire de plus qu'un format qui serait plus formel dans le cadre d'une recherche de ce type?
Je pense que mon intention de sortir des capteurs, c'était pour... Enfin, du coup, c'est le même mécanisme, mais de l'inclure dans une narration. C'était justement pour le relier à une vision plus holistique ou plus globale du système que ça implique et pas simplement de dire « Ah, marrant, en effet, ça émet quelque chose quand je téléphone et qu'il y a une interférence », mais essayer d'aller un petit peu plus loin et d'ouvrir justement mon histoire de requin aussi et d'oiseaux perturbés.
D'accord. Et donc, quel est le rôle de la Labomédia dans le bon déroulement de ces recherches ?
Donc là, c'est peut-être moi qui peux répondre. Oui. Nous, on a fait en sorte d'accueillir Éléonore au mieux, déjà au niveau purement matériel, qu'elle ait un petit appartement, qu'elle ait un atelier. On a pas mal de matériel pour travailler aussi. On a une découpe laser, on a une brodeuse à commande numérique. Donc on lui a mis à disposition notre matériel. Ensuite, on l'a un peu accompagné aussi au niveau humain, parce que je sais que, par exemple, Benjamin, le directeur de Labomédia, est très intéressé aux ondes électromagnétiques, donc ça tombait bien. Enfin, c'est aussi pour ça aussi un peu qu'on avait choisi le travail d'Éléonore, parce qu'on s'est dit, ah, elle, vu son travail, et vu ce qu'on a les connaissances qu'on a en interne, on va pouvoir interagir pas mal avec elle.
D'accord.
Après, on a aussi pas mal d'adhérents à Labomédia qui sont, pareil, entre l'artiste et le geek, qui sont... Et donc, il y a eu des échanges aussi entre elle et eux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ?
Après, on a une petite, oui, petite bourse de... C'est un vivier foisonnant de plein de gens très motivés et amateuristes ou pas, qui sont très intéressés pour parler de la recherche, d'interagir. Et du coup, c'était très riche de pouvoir discuter avec tout le monde présent, puisque tout le monde fait plein de choses là-bas. C'était chouette.
D'accord. Et donc, il y a eu une restitution publique de ton travail de recherche. Est-ce qu'il y a encore l'occasion de pouvoir suivre ces résultats ou d'avoir accès au contenu de ces recherches ?
Je pense que je vais les publier sur mon petit site que j'ai fait et peut-être sur mes réseaux. Après, vu que c'était une résidence de recherche aussi. Le projet est là pour but d'encore évoluer. L'installation, c'est un format qui me plaît bien, mais qui est un peu un premier crash test et qui, j'espère, continuer par la suite. Mais sinon, moi, perso, je vais le présenter sur mon site et peut-être mon Instagram.
Je pense qu'à Labomédia aussi, on va présenter les travaux un peu sur le site. J'ai fait quelques captations le jour de la restitution, faire un petit montage de la vidéo, mettre quelques images... Voilà, sur le site de labomedia.org, vous pourrez trouver aussi des infos.
Je souhaitais savoir, du coup, Éléonore, du coup, toutes ces informations de recherche autour des ondes électromagnétiques, où est-ce que tu as pu puiser donc, ces informations ? Quelles sont les sources que tu as utilisées ? Parce que j'imagine que tu es partie de rien en termes de connaissances, ou tu avais déjà un peu des connaissances sur ces ondes électromagnétiques ? Ou c'était une découverte totale ?
Non, j'avais pas de connaissances vraiment. J'avais déjà essayé d'expérimenter dans d'autres cadres de projets, par exemple, de fabriquer mes propres petit radio émetteur en suivant pareil un artiste qui propose de faire un radio émetteur le plus simple possible qui s'appelle Tetsuo Kogawa. Du coup, en fait, je m'étais déjà un peu approchée mais sans comprendre du tout ce qui se passait. Donc, j'ai pu refaire des croisements, mais sinon, c'est des recherches sur internet et ça s'est fait graduellement. Au début, par rapport à mon histoire de requin, je me suis plus intéressée aux enjeux aussi politiques et sociétaux que engendrait cette installation de câbles sous-marins. Et ensuite aussi, comme disait Philippe, c'est qu'il y avait pas mal de ressources, de personnes ressources à la Labomédia, et on m'a prêté des outils, des capteurs déjà efficaces et prouvés pour capter ces ondes électromagnétiques, et pas mal de ressources, des lectures, des livres... Et des discussions aussi, parce que les personnes s'y connaissaient bien.
Peut-être un site internet ou un ouvrage de référence que tu aimerais partager avec nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir un peu plus également sur ces ondes électromagnétiques ?
Oui, peut-être un ouvrage qui était cool. Il y a un poster qui a été fait par Bureau d'études. Bureau d'études, c'est, je ne sais pas trop, c'est des chercheuses, je pense, qui ont fait un atlas qui essaye d'expliquer en grand poster des sujets complexes, et dedans il y en a un qui parle des ondes, la propagande des ondes électromagnétiques, qui s'appelle Propaganda. Si vous écrivez Propaganda de Bureau d'études, vous allez trouver, et c'est assez chouette et ça touche à tout en plein de petits textes et petits dessins.
D'autres projets à venir, d'autres travaux de recherche que tu aimerais explorer, d'autres univers dans le futur ?
Dans les projets qui devraient arriver cette année, je travaille avec une amie sur un jeu vidéo qui prend la forme d'une quête absurde dessinée uniquement en ASCII, donc c'est des dessins réalisés qu'en caractère ouais. texte, qui, du coup, pendant cette quête, on rencontre des femmes et minorités de genre qui ont marqué le domaine du numérique et qui ont été un peu oubliées. Et du coup, dans cette balade, on rencontre des chimères qui représentent ces personnes et on en retire des textes, des références. Donc ça, c'est un projet qui devrait exister normalement et peut-être ça va prendre la forme d'une résidence avec une structure qui s'appelle Siana. C'est à Évry-Courcouronnes, c'est dans le sud de Paris.
Ouais.
Voilà, dans les projets de recherche qui touchent un peu au numérique aussi.
Tu parlais de ton site internet, est-ce que tu peux donner le lien pour qu'on puisse y accéder ?
Oui, il a un nom un peu naze, du coup je vais vous envoyer le lien.
Non mais je te laisse le dire pour nos auditeurs et auditrices okay. pour qu'ils puissent...
Alors, il s'appelle, donc c'est eleonore-sens,
ouais.
.github.io,
ouais.
slash bonjour, slash.
Ok, sachant que c'est GitHub, c'est un outil open source, quelle est la part justement des outils open source dans ton projet ? Parce que je sais que à la Labo Media, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des réflexions. Est-ce que tu étais déjà familière avec tous ces outils-là ? Pour rappel, c'est quoi le open source, Philippe ?
L'open source, c'est que le code en fait, qui permet de générer ce qui fonctionne dans l'ordinateur est libre et les gens donc, peuvent regarder comment ça fonctionne. Ils peuvent le dupliquer,
ouais.
ils peuvent le modifier. Et, voilà, c'est ouvert, quoi. Le code est ouvert, la source est ouverte.
Et GitHub est un exemple d'outil open source, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois, je ne suis pas ouais. spécialiste.
et avant ça, du coup, Léonore, tout ce qui était open source, c'était nébuleux ou tu connaissais déjà un peu ce domaine-là ?
Je connaissais un petit peu, mais ça reste pareil, je n'ai pas la technique. Du coup, je m'y intéresse bien, mais dans les outils que j'utilise, principalement, ça ne l'est pas.
Ouais.
Et je suis en apprentissage pour convertir mes outils... salon outil open source.
Donc eleonore-sense.github.com, c'est ça ? / bonjour.
.io.
.io. Ouais, je te laisse redonner l'URL en entier.
Oui, ça marche.
Vas-y, redis-le du coup une fois pour les personnes qui nous écoutent.
eleonore-sense.github.io/bonjour.
Voilà, on retrouve donc ton travail sur cette plateforme. J'imagine que tu as peut-être également des réseaux sociaux ?
Ouais, je suis sur Instagram. Et je m'appelle bonjour 62, mais si on écrit Eleonore Sans, ça devrait me retrouver aussi.
Ça devrait également fonctionner. Anna-Marine, est-ce que vous avez d'autres questions ?
Non, pas pour l'instant.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Eleonore, d'avoir été avec nous.
Oui, merci beaucoup à toi de nous avoir présenté ton travail de recherche.
Et restez avec nous sur les ondes de Radio Campus Orléans, puisque après un petit peu de musique, on va continuer avec toi, Philippe, et parler un petit peu de la Labo Média, un peu plus dans les détails. Bon, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit à l'antenne de Radio Campus Orléans, mais en tout cas, vous avez une actualité, comme le disait Marine en début d'émission. Vous proposez une exposition dans le cadre du Printemps de Bourges, ce festival très connu à l'international et partout, qui a lieu donc à Bourges, en région Centre-Val de Loire, très très bientôt. C'est quand ? C'est la semaine prochaine ?
C'est en ce moment.
C'est en ce moment même.
C'est commencé hier et c'est jusqu'à dimanche.
Eh bien, on en parle dans quelques instants. Je vous propose d'écouter Jarda al-Wadi de Le Cri du Caire sur Radio Campus Orléans. Restez avec nous. À tout de suite.
تزداد روحي حمرة من كل ساحل لسواو
Wadi, c'est un titre de Le Cri du Caire. C'est également une interview à retrouver sur notre site internet orléans.radiocampus.org, puisqu'on les avait reçus dans le cadre de nos émissions avec la scène nationale d'Orléans. Restez avec nous, on continue avec Philippe de la Labo Média qui va nous parler justement de cette exposition qu'il propose sur le printemps de Bourges dans le magazine culturel. On écoute Ouverture de Heaven sur Radio Campus Orléans. Thank you. Ouverture de Heaven, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans dans le magazine culturel.
Pour poursuivre avec toi, Philippe, qui représente aujourd'hui la Labo Média à Radio Campus, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est la Labo Média ?
Alors, la Labo Média, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans, je pense, qui s'intéresse aux pratiques numériques plutôt dans le champ artistique. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt dans des logiques open source, des choses assez un peu anticapitalistes, disons. Y a quoi d'autre comme... Donc on a un petit Fab Lab, on a des activités aussi qui sont plus au niveau de l'artisanat. En fait, on est passé du numérique à l'artisanat en passant par le DIY, le do it yourself, le fais-le toi-même. Oui. Qui est un peu la logique aussi des échanges comme ça de l'open source, où on se donne les recettes, on cache pas les choses, on essaie de partager au maximum nos connaissances. Et donc, c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont faire du code et d'autres qui vont faire de la teinture végétale. Tu vois, ça fait vraiment un éventail d'activités assez important à Labo Média. Et puis voilà, entre autres, on organise des résidences d'artistes, donc plus ou moins formelles. Donc celle d'Éléonore était bien formelle, mais il y a des choses un peu plus informelles où c'est juste des gens qui ont besoin d'un morceau d'atelier pendant 4 jours pour répéter quelque chose, on peut les accueillir. Mmh. Voilà, il y a différentes activités comme ça. On a un programme qui s'appelle, on en parlait tout à l'heure avec Erwan, Ordinateur Solidaire, où on récupère des ordinateurs d'entreprises qui partent au rebut. Et nous, on les passe en logiciel libre. Et ensuite, l'idée après, c'est de les distribuer gratuitement à des gens qui en ont besoin, avec une formation autour des logiciels libres. Donc comme ça, on leur donne... Un outil de travail, et en même temps, on leur donne cette petite formation pour qu'ils utilisent les logiciels qui sont gratuits, libres, open source, tout ça.
Et qu'est-ce que la Labo Média propose à nos auditeurs en ce moment ? Quelle est l'actualité ?
Donc, en ce moment, nous avons donc une activité d'exposition à Bourges, donc dans le cadre du printemps de Bourges. Ça se passe au Palais d'Oron, donc c'est dans la partie gratuite du printemps de Bourges, et c'est ouvert je crois que c'est fin de matinée jusqu'à 20h, je crois. Et donc, il y a des expositions d'œuvres de la Labo Média. Et il y a aussi un artiste allemand qui s'appelle Moritz Simon Gates, qui propose des installations autour un peu de la musique, une un peu autour de la musique, où ils ont une sorte de petit pad qu'on peut commander qui active des petits robots qui font la musique. Et puis une autre œuvre qui s'intéresse à l'économie de l'attention. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui regardent cette œuvre, plus l'œuvre va se déformer. C'est des filins avec des vérins qui vont s'actionner. Donc l'œuvre va se déformer. Plus il y a des gens autour, plus elle va se déformer, plus elle va faire du bruit. C'est quelque chose d'interactif, d'assez beau. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu monter. J'étais au montage lundi, donc ce n'est pas fini encore. Mais j'ai vu la vidéo, ça a l'air très beau.
Non, vas-y, je t'en prie.
Donc, moins on est attentif à cette œuvre, moins elle...
Plus elle est discrète, quoi. Moins elle bouge, quoi.
Comment c'est possible, en fait ? Comment elle fait pour savoir qu'elle est regardée, l'œuvre ?
Eh bien, alors, j'ai vu sur la petite vidéo de présentation, une caméra qui filme donc, ce qu'il y a autour de l'œuvre et qui, avec un petit logiciel, qui repère les êtres humains. Et donc, à partir du moment où il y en a un, elle va agir d'une certaine façon. Au moment où il y en a 10, elle va agir d'une autre façon.
Il y a quoi ? Il y a la reconnaissance faciale pour se rendre compte que l'œuvre, elle est regardée ou non ?
Alors, je ne sais pas si c'est facial. Elle reconnaît en tout cas les corps. Donc, elle arrive à dire que, tiens, il y a deux bras, deux jambes. Ça, c'est un humain, donc je compte comme une unité. Ouais. Après, au niveau du visage, je ne sais pas si elle va jusqu'à regarder si les yeux regardent l'œuvre ou pas. Ça, je ne sais pas.
Comme tu viens de le dire, dans le cadre du printemps de Bourges, il y a une exposition nommée l'exposition Vert numérique au Carré d'Oron dans l'espace conseil régional au Centre Val-de-Loire à Bourges. Est-ce que tu peux nous présenter cette exposition avec ses objectifs précisément et comment elle s'inscrit dans le festival du printemps de Bourges ?
Alors dans le festival du printemps de Bourges, elle s'inscrit dans le sens où il y a quand même pas mal de choses. Donc les œuvres de Moritz, là c'est un petit peu musical. Alors attends, c'était quoi le... C'est un peu autour des low-tech, hein, des technologies basses, low, bas, et technologies faciles en fait. Et donc nous, à la Labo Média, on travaille beaucoup là-dessus, c'est sur des détournements de technologies. Et finalement, avec un petit peu de bricolage, on arrive à faire des choses qui sont numériques. Mais tu vois, on ne va pas être vraiment emballé par exemple, un casque de réalité virtuelle. Mm-hmm. Nous, par contre, on va essayer de parler de ce que c'est qu'un casque de réalité virtuelle en le détournant ou en disant, ben, je sais pas, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que ce monde, ce monde alternatif. Et donc là, nous, à la Beaumédia, on présente une œuvre qui est un petit peu rigolote, qui consiste à... C'est une sorte de photomaton. On invite les gens à mettre leur visage dans un cône de chantier et à appuyer sur un petit déclencheur pour prendre un selfie d'eux-mêmes. Et ensuite, leur visage est collé sur un petit oiseau qui vole sur un écran.
Okay,
et en temps réel, on filme le ciel de Bourges pour que l'oiseau vole dans le vrai ciel de Bourges. Enfin, bon.
Une espèce de montage...
Un petit montage, mais bien bricolé, tu vois. Donc, on essaie quand même de parler de technologie, mais d'une façon un petit peu rigolote et en se moquant un peu aussi des technologies, en disant tout ça pour ça. Puis voilà, le moment où les gens se prennent en photo dans ce cône de chantier, ils ont un peu une tête d'oiseau, parce que ça leur fait un grand bec, tu vois. Et donc, voilà, on essaie de mettre un petit peu d'humour là-dedans.
Parce que concrètement, je veux dire, d'un côté du cône, tu as la caméra et de l'autre côté, tu as le visage. Ou est-ce que
ils
prennent le... D'accord, la caméra, elle est dans le cône.
Elle est dans le cône, d'accord.
C'est pas extérieur. Okay.
Donc, c'est aussi rigolo pour les gens qui voient ça de l'extérieur. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font à mettre la tête dans leur cône là? Et donc, voilà, il y a aussi ce jeu en se disant, ben voilà, parce que pareil, quelqu'un qui a un casque de réalité virtuelle dans un espace... On le voit marcher comme un zombie. Mm-hmm. C'est rigolo de se dire, tiens, c'est marrant, cette personne qui marchait normalement 30 secondes devient un zombie parce qu'on lui a mis un casque sur la tête. Donc, tu vois, on fait ces réflexions-là aussi entre la technologie, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça enlève à notre humanité. On présente aussi une autre œuvre qui parle des émissions de CO2 dans l'atmosphère. On a travaillé avec un labo de recherche... dont le nom m'échappe, mais qui a une antenne à... Ben, entre autres, il y a le CNRS dedans, mais eux, ils sont spécialisés dans le CO2 dans l'espace. Enfin, dans l'espace, non, dans l'atmosphère. Et donc, on a utilisé les relevés de CO2 donc, sur plusieurs millions d'années pour montrer qu'il y a eu des variations, effectivement, de chaleur et de niveau de CO2 dans l'atmosphère depuis des millions d'années, mais que depuis les années 60, c'est exponentiel. Et c'est un peu du jamais vu par rapport à ce qui s'est passé... Sur des centaines de millions d'années. Et donc, c'est de façon un peu ludique où les gens... pareil, on a mis un ordinateur avec une reconnaissance de corps. Et donc, les gens, en avançant ou en reculant devant l'écran, voyagent dans le temps.
Oui, j'ai vu une petite vidéo sur...
Voilà. Ils peuvent reculer aux âges glaciaires et puis arriver jusqu'aux années 60. Et donc, en haut de l'écran, on a un petit diagramme qui montre la présence de CO2 dans l'air, entre soit à l'époque où il y avait les volcans qui crachaient plein de CO2, soit nous, avec nos usines, qui crachent plein de CO2.
Et pour cette exposition, il y a forcément eu beaucoup de candidatures, si je puis dire, d'artistes qui veulent présenter leurs œuvres. Comment vous avez fait pour les choisir ?
Alors là, ça ne s'est pas passé comme ça. Là, c'était plutôt une commande de la région.
D'accord.
Et donc là, c'est plutôt Benjamin, qui est notre directeur artistique, qui lui a été choisir dans ses recherches les œuvres qu'il voudrait exposer à cette exposition, dans cet espace-là. Donc voilà, c'est comme ça que Simon, Moritz, on ne le connaissait pas spécialement, il n'a pas candidaté, c'est Benjamin qui connaissait son travail et qui a demandé s'il était possible d'exposer son travail dans ce cadre.
Oui, c'est ça. Qui sont les artistes ? Est-ce que ce sont uniquement les bénévoles de la Labomédia ou alors des amis ou alors c'est des réseaux, des contacts ?
Alors sur les œuvres de la Labomédia, ce sont des œuvres assez collectives. Il y a souvent quand même un ou deux piliers à chaque œuvre, qui fait le développement informatique, soit qui fait la partie graphique. Mais généralement, ce sont des œuvres qui sont signées à la Labomédia avec quand même des 2-3 personnes quand même phares sur les projets.
Il y a un peu de tout finalement.
Il y a un peu de tout. Et puis par contre, les œuvres de Moritz, là, c'est vraiment des œuvres à lui. Il revient en tant qu'artiste présenter son travail.
Et finalement, si on a des auditeurs et des auditrices qui souhaitent un jour exposer peut-être sur le plafond de Bourges, comment on fait ?
Écoutez, il faut qu'ils envoient leur portfolio à Benjamin, chez Labomédia, comme ça il connaîtra l'existence de leur travail.
Personnellement, en me baladant sur le site de la Labomédia, le nom de l'atelier qui m'a beaucoup intriguée, c'est celui sur les disques de vinyle en chocolat. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous expliquer son rapport avec le sujet de l'expo ?
Donc l'idée, c'est de graver un disque de chocolat avec la technique du vinyle. Donc, il y a juste une petite. Donc, ça se rapproche au low-tech qu'on aime bien à la Beaumédia, c'est-à-dire que c'est une plaque de chocolat qui est dure, okay. dans laquelle une petite aiguille va creuser des sillons de façon mécanique avec mm-hmm. un micro. C'est même pas un micro, c'est un amplificateur d'ondes qui va faire vibrer l'aiguille et qui va creuser les sillons. Et ensuite, on peut lire le disque en chocolat sur une lecteur, sur une platine vinyle de base. Et donc, ça nous plaisait bien donc, dans le sens où c'est de la musique. Donc, ça collait bien avec l'histoire du Printemps de Bourges. Mm-hmm. Le côté aussi low-tech, facile à faire, on pourrait presque le faire chez nous. Et puis, le côté aussi décalé, aussi un disque en chocolat, un disque qu'on peut manger à la fin, c'est rigolo. Et puis, cet artiste, donc tu fais bien de parler, parce que j'ai oublié d'en parler. En plus, je crois qu'il habite dans la région, donc c'est un artiste local. Et il présente son œuvre sous forme d'atelier. Donc, comme il y a beaucoup de passages et beaucoup d'enfants sur le Printemps de Bourges en après-midi dans cet espace, c'était important pour nous aussi de proposer des ateliers, des choses vraiment où le public puisse interagir, bricoler avec les artistes.
Rentrer chez eux avec le disque.
Limite, ouais. S'il a pas fondu entre temps. Là, avec le temps, ça va. Ils font pas.
Ah bah c'est ça que j'avais en tête. C'est le disque. Est-ce qu'il risque pas de fondre en fait pendant son utilisation?
Oui, alors je pense que tu peux pas l'écouter 200 fois le disque, hein, parce que je pense qu'à chaque fois
Ouais.
Et tu peux le manger. Est-ce qu'ils font le chocolat? Ça fond à quelle température? Je sais pas. Il faut quand même 45
degrés.
Idée,
c'est beaucoup moins.
Ah oui, dans les doigts, ça fond. Il y a 37
degrés.
Ça
c'est ça. Je pense qu'à 37 degrés, ça doit être à 30 degrés en fait la température de fonte. Mais comment est-ce qu'on grave de la musique du coup sur de la matière? Ce que tu dis avec une aiguille, mais il y a quoi dans l'aiguille?
Il y a rien.
C'est juste une aiguille.
Ouais, en fait, bah, si
tu
vous
parles,
sur
tu,
le
parles site... tu chantes pendant que tu fais tourner le disque avec ton aiguille.
Voilà, c'est ça. En fait, si vous allez sur le site de la Beaumédia, vous cliquez sur la vidéo, il explique un petit peu son fonctionnement.
Ouais.
Et moi, c'est pareil, je l'ai pas vu en fonctionnement parce que c'est les ateliers. Je crois que c'est vendredi et samedi, je crois les ateliers. Je suis pas sûr à 100%, mais donc il faut le voir pour y croire. Hein.
Du coup, là, on a vu les vinyles en chocolat. On a parlé aussi de CO2, d'atelier comme ça. Est-ce que tu peux nous donner le lien entre ces différents espaces, ces utilisations? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu... on pourrait pas tout de suite voir le rapport, en fait, entre le chocolat et tout le reste.
Alors, c'est vrai, entre le chocolat et le CO2, il y a un grand pas.
Pendant que tu réfléchis, j'ai trouvé la vidéo de 1 minute 30 sur justement enregistre ta voix sur un disque en chocolat. Vas-y, je te laisse répondre à la question et après on l'écoutera.
Non, je dirais que c'est peut-être l'activité humaine qui serait un peu qui serait observée. Donc l'activité humaine, disons, au niveau d'industriel qui émet beaucoup de pollution, qui demande de l'extraction, tout ça. Et montrer qu'il y a aussi une activité humaine qui peut être plus sobre. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer ce côté un petit peu illusoire, quoi, de fabriquer un petit disque avec du chocolat qu'on a fait fondre à la maison. On n'est pas obligé d'aller chercher du pétrole, on n'est pas obligé de tirer notre vinyle à 2000 exemplaires. Et voilà, il y a ce côté un petit peu, voilà, on peut faire des choses simples qui soient un peu magiques et pas obligé d'aller chercher des choses qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie pour rêver. Okay. Parce que ce serait peut-être ça le lien.
On l'écoute? Allez, on écoute.
Mais qu'est-ce que c'est l'atelier cacaophonique?
Avec une machine spécialement conçue pour, tu vas pouvoir graver ta propre voix dans un disque en chocolat. Découvre les techniques de chocolatier et les origines mystérieuses de l'enregistrement phonographique. Ici, tout est mécanique et acoustique. Mise en place du disque de cacao vierge, et il n'y a plus qu'à chanter.
Chaud cacao! Chaud, 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 chocolat!
Chaud, cacao! Chaud, 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 chocolat!
Chaud, cacao!
Chaud, 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 chocolat!
L'aiguille grave le son directement dans le chocolat. Le disque unique est maintenant prêt. On ouvre l'appareil pour prendre l'enregistrement. Le chocolat est fragile et le son aussi. Trop de chaleur et le disque fond. On écoute ensuite l'enregistrement sur une platine vinyle classique. Et maintenant, place à la dégustation.
Miam miam.
Miam miam. Merci l'atelier cacaophonique.
Et toi, ta voix dans le chocolat, ça donnerait quoi?
Alors voilà cette vidéo qu'on peut retrouver sur le site de la Labo Média dans l'article qui est dédié justement à cette exposition au Printemps de Bourges. Alors je vais faire une petite description un petit peu du dispositif pour nos auditeurs et auditrices. Alors il faut vraiment imaginer qu'on est comme sur une espèce de platine vinyle classique. Simplement, au lieu d'avoir la tête de lecture, on va avoir en fait une tige en métal avec littéralement un gobelet en plastique de festival. Sur le gobelet de plastique de festival qu'on peut utiliser dans un yaourtophone, hein, vraiment c'est le gobelet en plastique qu'on utilise pour mettre la ficelle quand on est enfant pour faire un téléphone avec un fil de laine, il y a juste un clou ou c'est une aiguille de couture qui est plantée en fait dans le gobelet en plastique et les gens viennent parler directement au travers d'un tube en métal qui est assez grand pour pouvoir faire davantage caisse de résonance. Donc vraiment, tu parlais de low-tech, en effet on a finalement juste ce tube en métal, ce gobelet en plastique, ce clou sur ce disque en chocolat qui tourne et ça donne quand même quelque chose quoi. C'est assez impressionnant.
Ah oui, j'ai découvert aussi.
Comment les visiteurs peuvent prolonger cette expérience après avoir quitté l'exposition ?
Comment ils peuvent ? Ils peuvent suivre l'activité de la Labo Média en voyant les différentes expos qu'on propose. J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait un atelier qui est donné par mes collègues au sein de cette exposition, qui est un atelier de... Ils sont conseillers numériques, c'est-à-dire qu'ils invitent les gens à réfléchir. Ils invitent, les gens à réfléchir sur leur pratique numérique et sur ce qu'implique, je sais pas, être sur Instagram, sur TikTok, sur toutes ces choses-là, ou Google, ou enfin toutes ces grosses entreprises d'internet leur expliquent en fait ce qui peut paraître juste un loisir implique quelque chose de politique assez fort. Et donc souvent ils les invitent donc à discuter de leur pratique numérique et donc ils peuvent ce qu'ils peuvent tirer de cette exposition dans le cadre de ces rencontres avec ces conseillers numériques, c'est d'avoir un petit peu de recul sur leur pratique numérique dans leur vie.
Ok, d'accord.
Et si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir remercier Philippe.
Merci beaucoup pour ton passage au magazine culturel.
Voilà, on le rappelle, hein, ces informations, on les retrouve sur le site internet de la Labo Média, labomedia.org. Et c'est en ce moment même qu'on peut enregistrer notre voix, alors que nous, on est en train de parler dans ce micro. Probablement que certains et certaines sont en train d'enregistrer leur voix sur ces disques de chocolat. Cette émission, je rappelle que vous pouvez la réécouter en podcast sur notre site internet orléans.radiocampus.org à partir de demain. Il est 17h45 dans quelques secondes, mais l'émission n'est pas terminée, puisque vous nous prévoyez quoi juste après cette petite écoute musicale qui n'est pas faite sur disque de chocolat cette fois, hein.
On prévoit ensuite de voir l'agenda culturel du moment. Donc si vous avez envie de faire quelques sorties culturelles très prochainement.
Et ben voilà, c'est la suite du magazine culturel sur Radio Campus. On écoute Subtle Rejection, un titre de Green Cross. Merci Philippe et à tout de suite pour l'agenda. Subtle Rejection, un titre de Green Cross, qui est un mix original que vous écoutez dans le magazine culturel. Maintenant, place à l'agenda culturel.
Agenda culturel. En effet, si vous voulez profiter d'une sortie, on a par exemple la compagnie des L et des Îles qui vous propose un week-end culturel du 3 au 5 mai à l'espace culturel Lionel Boutrouche à Ingré. On y trouvera du théâtre, de la musique, de la peinture et de l'éloquence avec par exemple un spectacle de stand-up des Zygomatiques le 4 mai, association qui est par ailleurs partenaire de l'événement.
Mais encore, le 15 et 16 mai, au CDNO, le Centre Dramatique National d'Orléans, se déroulera la 7e, une fable métaphysique de Tristan Garcia et Marie-Christine Soma, où théâtre et cinéma s'entrelacent.
Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi la MJC de Olivet qui propose des journées à la découverte du territoire local. Ça commence le mercredi 22 mai avec une sortie nature pour découvrir les oiseaux d'Olivet avec Olivier Lasblé, photographe animalier. Pour cette sortie, l'inscription est obligatoire sur le site de la MJC Olivet et la participation est de 5 euros.
N'hésitez pas aussi à aller profiter du cinéma des Carmes le 21 mai à 19h30 pour une projection documentaire nommée Free to Run en écho à l'exposition temporaire sur les Jeux Olympiques.
Et enfin, un événement signé Radio Campus Orléans. C'est bientôt la 3e édition du festival et apéro duo Gig. Et ça se passe ce week-end, vendredi 26 et samedi 27 avril au 108 Maison Bourgogne à Orléans. Vous pourrez venir manger un bon repas préparé par nos équipes ou encore profiter des DJ sets dans la soirée du vendredi. Il y aura de la bonne musique et ce pour tous les goûts. On a du hip-hop, de l'électronique, de la punk in synthesis ou même de l'Arabian Nights. On vous propose également une friperie et samedi des émission radio en direct ainsi que les concerts de Aquatofana et Claire Dance.
Merci beaucoup Anna, merci beaucoup Marine pour cet agenda. On continue cette émission et on va bientôt devoir se quitter dans une petite dizaine de minutes maintenant avec un titre de High Pulp, You've Got to Pull It From the Ground, en feat avec Théo Croca dans le magazine culturel.
floor right now. That you standing next to that brother. What if I were to tell you that all together?
Et voilà, le magazine culturel touche à sa fin. On va se quitter avec ce titre God of Techno de Lazarus Man. Merci Anna, merci Marine d'avoir été là pour animer cette émission et recevoir nos invités.
Merci à vous de nous avoir écoutés.
Et à bientôt pour une nouvelle édition.
Voilà, bonne journée à vous sur Radio Campus. À 20h, vous retrouverez, j'espère, Brasco pour Darial King Funkster. Et de 22h à minuit, ça va être Nation Groove sur le 88.3 FM. Je vous rappelle, hein, vous nous écoutez sur notre site internet orléans.radiocampus.org, en FM sur cette super fréquence qui est le 88.3, et également en radio numérique terrestre. Voilà, belle journée à vous, belle soirée, à très vite. A plus.
Au revoir.
Salut.
You see, techno music is a sensation. It is a build-up to something that I wanted you all to discover. Techno brings you together. As my son brought you together, techno will bring you even closer together. So ladies and gentlemen,